Bible, ce n'est pas un livre de théologie systématique ou dogmatique. La Bible n'est pas un livre avec des chapitres alignés, avec un chapitre sur la foi, sur l'éthique, sur la culture, etc., le Saint-Esprit. La Bible, en fait, est un récit de la vie d'hommes et de femmes qui cherchent à suivre Dieu, rencontrer Dieu. Avec certains qui réussissent merveilleusement et d'autres où il y a des leçons à tirer. Et j'aimerais ce matin parler, regarder la vie d'une personne de l'Ancien Testament. J'ai relu son histoire il y a quelques semaines et ça m'a parlé et j'aimerais regarder ça ensemble ce matin. Cette personne, c'est une personne majeure, importante dans l'Ancien Testament. C'est le roi Salomon, le roi de l'Ancien Testament, celui qui a suivi David. Salomon, un personnage important dans le récit de l'Ancien Testament. Il est d'abord une figure de Jésus-Christ. Il règne à un moment très important dans la vie de la nation d'Israël. Et son règne, sa vie, c'est un peu comme un accomplissement de tout ce qui s'est passé avant. Si on pouvait prendre tout ce qui se passait depuis l'Exode. Maintenant, Salomon est roi, et Israël est là, et il semble que tout que Dieu a promis est accompli dans la vie de Salomon. C'est une sorte de nouvelle Jérusalem. C'est un regard vers ce qui se passe à la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, où on regarde la nouvelle Jérusalem qui descend et Dieu qui demeure au sein de la cité. Et c'est ça que vit Salomon et le peuple à ce moment-là. Toutes les promesses sont accomplies dans la vie de Salomon. C'est lui qui construit le temple, un travail énorme qui demande de l'action, l'aide, la contribution de centaines de milliers d'hommes. Et Dieu construit un temple pour Dieu à Jérusalem. La chose qui était interdite à son père, David. David voulait déjà construire le temple, mais vous vous souvenez que Dieu a dit à David, « Non, tu as fait trop de guerres, il y a trop de sang sur tes mains, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui va suivre. Et c'est Salomon qui va préparer et construire le temple. » Et quand on lit les deux récits de la vie de Salomon, il y a deux passages de plusieurs chapitres qui racontent en détail la construction du temple, qui est le centre de l'univers, le centre du temps. C'est là, sur la terre, où Dieu réside parmi les hommes. Et tout est fait pour que ce temple puisse être construit. Puis Salomon est connu pour sa sagesse. Ça, c'est sa marque, ce qui est différent de lui, la sagesse de Salomon. Il avait une telle renommée qu'apparemment, en dehors d'Alexandre le Grand, c'est Salomon qui est raconté dans toute la littérature du Moyen-Orient, le personnage de l'Antiquité qui a marqué les nations qui entouraient Israël, chez les Arabes, chez les Éthiopiens, chez les Juifs. Et puis Salomon, c'est un homme de prière. Ce qui m'a frappé quand j'ai relu sa vie, c'était ces prières qu'il a faites, surtout au moment de la construction du temple. Dans 1 Roi 8, verset 27. « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Il avait une vision de la grandeur de Dieu, que Dieu est ce Dieu transcendant qui dépasse l'univers. Et puis, prie pour le peuple. Vous vous souvenez, toutes ces prières pour le peuple, quand ils pécheront contre toi, Seigneur, pardonne-leur. Tout homme, il y a point d'homme qui ne pêche pas, il dit. Et si les gens sont emmenés en captif, et s'ils se repentissent, tu les emmènes vers toi. C'est une vision qui est projetée vers l'avenir, vers l'exil. Puis Salomon, c'est l'auteur des textes bibliques. Proverbes. Évidemment, beaucoup de chapitres de proverbes viennent de Salomon, de ses propres proverbes. Il a écrit deux psaumes Et puis les livres d'Ecclésiaste et de Cantique de Cantique, on ne sait pas si c'est lui, disons, c'est écrit plus tard, mais sans doute tiré, tout était venu de lui. Peut-être c'est ses pensées qu'on a regroupées et on a fait. Un personnage qui était vraiment une image du Christ qui règne, du Christ sagesse. C'est fantastique. Souvenons un petit peu de sa vie. C'est la fin de sa vie. David est vieux. Il est faible. Il reste chez lui. Et son fils aîné, Adonias, normalement c'est le fils aîné qui devient roi après le roi. Lui, il dit maintenant c'est mon tour. Il se proclame roi. Il prend un char. Il prend 50 gardes du corps. Il commence à se promener à Jérusalem. Il organise son propre couronnement. Il invite tout le monde, sauf Salomon. Et le prophète Nathan, il se rend compte de ce qui se passe. Il dit, il y a un problème, il faut qu'on réagisse vite. Alors, il n'est pas bête. Il va voir trouver la femme de David, Bathsheba. Et ensemble, disons, ils décident comment faire. Et c'est très intéressant quand on lit le passage. Vous savez, parfois, la Bible regroupe juste quelques paroles et on passe sur notre sujet. Mais là, c'est raconté en détail, cet entretien. D'abord, c'est Bathsheba qui va et qui dit, « Seigneur, tu avais juré à ta servante que ce sera mon fils qui sera roi. » Et David dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Évidemment. Et puis, juste au moment où on a organisé ça parfaitement, c'est à ce moment-là que Nathan se pointe dans la pièce. Et David dit, « Ah, Bathsheba, vas-y. » Et Nathan dit, « Mais c'est toi qui as ordonné que ce soit Adonias qui soit roi ?» C'est très bien fait. Et David, il comprend. Et il réagit tout de suite. Il dit non, c'est Salomon. Et donc, il met Salomon sur sa mule. Et donc, c'est Salomon qui devient roi. Et très vite, Salomon affermit sa place en tant que roi. Et puis, il y a cette fameuse prière que Salomon fait devant Dieu. Vous vous souvenez? Il a un rêve. Et dans ce rêve, Dieu demande à Salomon, « Qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes n'importe quoi, je te le donne. » Et Salomon dit, « Donne-moi un cœur intelligent pour savoir régner sur son peuple. » Et ça plaît tellement à Dieu qu'il dit, « Ok, en plus que ça, je te donne la richesse et la gloire. » Et puis, l'histoire de ces deux prostituées, dont un enfant est mort et qui veulent chacun réclamer l'autre fils. Et vous vous souvenez de cette histoire où Salomon montre devant tout le monde sa grande sagesse. Et Salomon devient riche. On dit qu'Israël, à cette époque-là, recevait 20 tonnes d'or par an. 20 tonnes d'or par an. Je ne sais pas s'il y a autant dans la Banque de France, mais il avait 1400 chars. Alors, les chars à l'époque n'était pas très important pour faire la guerre. Et en fait, c'était juste pour montrer qu'il était puissant, qu'il avait 1400 chars. Jérusalem est devenue l'université du monde. Les gens venaient de loin pour étudier à Jérusalem, pour apprendre la sagesse de Salomon. Et Salomon était choisi et aimé par Dieu. Dieu dit, la Bible dit à Bathsheba, elle enfantera un fils qu'elle appellera Salomon. David appellera Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Salomon était aimé de Dieu. Plus que ça, il était choisi par Dieu pour s'asseoir sur le trône. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Alors si on regarde tout ça, on se dit, mais c'est fantastique. Quelle histoire merveilleuse. Et si on lit deux chroniques, c'est ça l'histoire qu'on apprend. Et on dirait, mais ce roi était une réussite fantastique. Mais si on revient sur un roi, on voit que les choses n'étaient pas tout aussi bien que ça. Et c'est ça qui m'a intrigué. Comment ça se fait que cet homme qui avait tout, qui était appelé par Dieu, qui avait toute cette sagesse, qui avait tout à son côté, et quelque part, le ver est entré dans la pomme. Et à la fin de sa vie, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ce temple merveilleux qu'il a construit, avec le travail de centaines de milliers de personnes, aujourd'hui, il ne reste aucune trace. Rien qui reste du temple. Sauf peut-être, on a trouvé une petite sculpture en ivoire, d'une petite fruit, une grenade. Et on se demande, peut-être, cette sculpture qui a la taille d'une pouce, peut-être, c'est ça, reste du temple. C'est-à-dire que tout ce que Salomon a fait, tout ce qui reste, peut-être, c'est un tout petit morceau d'ivoire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la vie de Salomon? Peut-être commençons avec les choses positives. La première chose, je dirais, c'est connaître tes dons. Salomon n'était pas un guerrier que son père. Salomon était un homme de sagesse. D'ailleurs, David reconnaît ça. Il parle de la sagesse de Salomon, même avant qu'il a fait cette fameuse prière dans le rêve, où il demande à Dieu de bénir sa sagesse. C'était son point fort. Et quand il prie, il demande, « Seigneur, bénis, aide-moi de ma sagesse pour gouverner ce peuple. » Le point fort de Salomon, c'était qu'il savait où il était fort. Si vous voulez avoir un impact dans la vie, il faut savoir où vous êtes fort. Si vous voulez, vous commencez dans votre carrière, vous êtes jeune, et vous décidez qu'est-ce que je fais dans ma vie, Seigneur, où, quels sont les dons que tu m'as donnés? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Et bénis ces dons. Les gens ne réussissent pas en mettant l'accent sur là où ils sont faibles, ils réussissent parce qu'ils mettent l'accent sur là où ils sont forts. Et Salomon savait que c'était la sagesse, son point fort. Il demande à Dieu, « Seigneur, bénis ma sagesse. » Et il veut utiliser son don pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour lui. Il dit, « Donne-moi la sagesse pour que je puisse gouverner ton peuple. Je veux que mon don soit mis à ton service. » Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Dit 1 Roi 4, verset 30. Et Salomon aurait prononcé 3000 proverbes et composé 1005 cantiques. Connaître tes dons. Mais l'autre face de ça, c'est méfiez-vous aussi de vos points forts. Parfois, c'est là où nous sommes le plus forts que nous sommes le plus faibles. Chaque homme tombe du côté de son penchant. Le problème pour Salomon, c'était sa sagesse. Nous vivons tous dans un monde hostile. Individuellement, quelque part, mais aussi les nations. Et si vous voulez assurer vos frontières, à l'époque, la meilleure façon de faire, c'était de faire un mariage avec la fille du roi dans le pays à côté. C'était logique. Personne ne fait la guerre contre sa propre famille. Si vous voulez créer la paix, vous épousez les filles du monde. Et c'est ça qu'il a fait. C'est la première chose que Salomon a fait, c'était d'épouser la fille de Pharaon en Égypte. Comme ça, il a assuré sa frontière sud-ouest. C'était le premier compromis dans sa vie. Il prit pour femme la fille de Pharaon, contre la volonté de Dieu, qui disait qu'il ne fallait pas épouser les femmes étrangères. Juste une. Ça ne va pas faire de mal. C'est logique. C'est juste créer la paix, régler les choses avec les gens autour de nous. En plus, il a pris ses précautions. Il a dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David. » Roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Il savait que c'était pas une femme juive, une femme de Dieu, et donc elle pouvait pas entrer dans la maison de David parce que l'arche est entrée par là, et donc il a construit une maison pour elle à côté. Il a dit, voilà, je peux gérer ça, j'ai fait un petit compromis, mais jusqu'à là, pas plus loin, pas plus loin. « L'Église, combien de fois est-elle tentée de faire la paix avec le monde autour de nous? Et quelle meilleure façon que d'épouser les filles du monde à l'extérieur? Je veux dire ça figurativement, pas littéralement. La première hérésie d'entrer dans l'Église, c'était le gnosticisme pendant le premier siècle. Un mélange de la philosophie grecque, platonique et de Pythagore, que les chrétiens commençaient à assimiler dans leur foi chrétienne. Et même le Nouveau Testament parle contre cette hérésie qui commençait. Et si vous regardez toute l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte que combien de fois l'Église a épousé les filles du monde extérieur pour faire la paix, avoir la paix. Le XXe siècle, c'était les problèmes de la science. On ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait faire des miracles. C'est contre les lois de la science. Et donc les théologiens ont dit, il n'y a pas de miracle. Jésus n'est pas ressuscité. Quelles sont les pressions du monde aujourd'hui? Théorie de genre, féminisme extrême. Et aujourd'hui, la théologie est influencée. Et la semaine dernière, n'est-ce pas, nous avons été témoins de ce qui se passe dans l'Église qui cherche à épouser les femmes du monde, c'est-à-dire faire la paix. Ça ne veut pas dire qu'on doit se retirer du monde. On ne devient pas comme des Amish qui tournent le dos au monde à l'extérieur de nous. Il y a des choses à apprendre du monde dans lequel nous vivons. Mais tout le temps, il faut revenir au texte biblique. Est-ce que j'ai compris? Quand on vous dit que depuis 2000 ans, on a mal compris la Bible, mais maintenant, enfin, on comprend, méfiez-vous. On finit par épouser les filles du monde pour avoir la paix. Une des choses que j'ai expliquées dans mon livre, c'est que l'histoire de l'Église peut être définie par deux côtés, soit la persécution, soit la séduction. Et souvent, on cherche à faire la paix pour ne pas avoir la persécution et le conflit avec le monde. Prochaine chose, il n'y avait personne pour contredire. Où était Nathan? Où était le prophète? Celui qui avait risqué sa vie pour dire à David, tu es un pécheur. Et Nathan n'a rien dit. Peut-être qu'ils étaient tellement impressionnés par cette sagesse de Salomon, celui qui avait tué 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 têtes de petits bétail pour l'Holocauste, pour le temple. On s'est dit, qui peut contredire un homme aussi spirituel que ça? La première personne qui nous dit la vérité, parfois, c'est notre époux, nos épouses, nos époux. Mais David, ses épouses étaient des étrangères. Il faut avoir le courage de demander l'avis, avoir le courage de dire aux autres, d'écouter les autres. L'orgueil. Seulement, est-ce qu'il n'était pas tout simplement orgueilleux? Quand le reine de Séba vient demander son avis, les reines qui viennent de loin demander ta sagesse, apprendre de toi. Apparemment, en Éthiopie, la tradition dit que Salomon aurait fait un enfant avec la reine de Séba. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est la tradition éthiopienne. Il y a un passage qui m'a chipoté. Salomon est en train de prier. Le temple vient d'être construit. Dieu est entré dans le temple. Le temple est rempli avec la nuée, la présence de Dieu. Et Salomon dit ceci. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Et c'est ce petit mot. Et moi, j'ai bâti ta maison. Parfois, on oublie qu'on est là en train de servir le Seigneur, on est son serviteur, et on devient lui. Moi, je t'ai fait ça, Seigneur. C'est mon ministère. C'est ce que je fais. Et moi, pratiquement, tu es redevable à moi pour ce que je fais. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que l'hébreu ne dit pas comme ça, mais quand je lis en français, au moins, dans les plusieurs traductions, c'est ça qui est l'impression que j'avais. Et moi, je t'ai bâti une maison. Quand vous êtes découragé, quand vous trouvez la vie difficile, quand vous êtes en lutte avec des problèmes, parfois on va dire, Seigneur merci, tu me rappelles mes limites. Tu me rappelles que je suis que un serviteur, une servante. Que je peux faire ça pour toi, mais je suis juste un serviteur. Ce n'est pas moi qui bâtis ta maison. Je suis un ouvrier dans ta maison. Le résultat de tout ça, c'est que la Bible dit dans un roi, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, qui appartenaient aux nations. Dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et c'est ce qui se passait dans la vie de Salomon. Lui, qui a construit le temple de Dieu, a fini sa vie par construire des temples pour d'autres dieux dans les collines qui entourent Jérusalem. Ça nous rappelle le temps. Je me souviens que j'étais jeune, j'étais étudiant. On a été un grand mouvement d'étudiants convertis dans l'université où j'étais. Et un jour, quelqu'un est venu parler. On était peut-être 200, 300 jeunes, 19, 20 ans. Et il nous a regardés. Il a dit, la majorité d'entre vous, d'ici 20 ans, ne marcheront plus avec Dieu. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, mais ça m'a fait un effet. Je dis, oui, on peut bien commencer. Ça ne veut pas dire que tu finis bien. Vous savez, il y a deux personnes qui ont joué un rôle dans Portes Ouvertes il y a longtemps, qui étaient des amis, qui étaient proches. Et aujourd'hui, d'après ce que je sais, ces deux hommes ne marchent pas avec Dieu. Je prie pour eux chaque semaine. Je crois que Dieu, la persévérance des saints, que Dieu nous appelle, Dieu nous protège, mais la persévérance, c'est nous aussi qui restons fidèles dans la parole de Dieu. Petit à petit, la séduction arrive et on s'éloigne du Seigneur. Et c'est pour ça qu'en lisant ce chapitre sur ces chapitres seulement, je me suis dit oui, c'est important. C'est important de regarder ces deux faces. Alors peut-être, je suis désolé, c'est peut-être pas très encourageant comme message. Il y a ce côté de Salomon, je crois que cet homme est un enfant de Dieu. Je pense que Dieu l'a utilisé, il a donné la parole de Dieu, il a été construit des temples, mais ces petits compromis ont laissé s'éloigner de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 3, verset 13. « Mais encouragez-vous les uns des autres, jour après jour, aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Le Nouveau Testament nous dit « Encouragez-vous tous les jours, méfiez-vous que vos cœurs ne s'endurcissent pas. » Que le Seigneur reste au centre de nos vies. Que le Seigneur nous garde. On va prier. Seigneur, merci pour cet homme Salomon. Merci pour cet homme merveilleux que tu utilisais, qui était une image merveilleuse, qui était sans doute un des hommes les plus doués de toute l'histoire. Et pourtant, il nous rappelle aussi que nous devons faire attention. Que même la sagesse ne nous protège pas contre la séduction du péché. Je prie pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on prenne juste un moment, personnellement dans le cœur, dans le silence, et chacun dise, Seigneur, je voudrais être un homme, une femme qui marche fidèlement. Garde-moi sur la voie de ta parole. Aide-moi à voir quand je peux être séduit par les choses qui ne viennent pas de toi. Je prie pour notre Église qu'on reste fidèle à ta parole, fidèle à ce que tu enseignes. Merci pour la louange ce matin. J'étais très, très touché par ce moment où tu as dansé pour nous et devant le Seigneur. J'avais l'impression d'être dans le temple, de glorifier le Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur, entre nous, en nous, dans nos cultes, dans nos louanges. Que nous puissions rester fidèles à toi, à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.